Hey les filles, ça vous dit, aujourd'hui on parle de Simone Veil?
Et si on parlait pas plutôt de Jedel Halimi, une femme tout aussi importante, mais dont on parle beaucoup moins?
Mais parlez moins fort, soyez moins hystériques, calmez-vous.
Tout le monde s'adresse au ministre en disant « bonjour monsieur le ministre » et à moi en disant tout simplement « bonjour ».
Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire.
Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place.
Ça n'est quand même qu'une nana.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de Jedel Halimi.
Aujourd'hui, la voix de cette militante féministe résonne encore dans les tribunaux. C'est une infatigable avocate, une militante pro-décolonisation. Elle a avorté 3 fois. Elle affirme que toutes les femmes avortent, seulement elles ne le disent pas. Être née fille pour elle, c'était une véritable malédiction. Elle était très observatrice. Elle se rendait compte des hiérarchisations sexistes dès le plus jeune âge.
Elle est née en 1927 dans une famille juive pratiquante près de Tunis, en Tunisie. Elle est issue d'une famille modeste, d'une mère d'origine espagnole et d'un père d'origine berbère. Son père était si triste d'avoir une fille qu'il a mis plusieurs semaines à l'avouer à ses amis. Et bien, elle va surtout avoir une relation assez compliquée avec sa mère. Elle va dire de sa mère dans un livre publié en 1999 que celle-ci ne l'aimait pas et qu'elle est l'explication de toute sa démarche, ayant voulu que les femmes ne lui ressemblent pas. En effet, sa mère marquera toujours de la préférence pour ses fils, tandis que son père, lui, qui était à la fois troublé et admiratif par la détermination de Jedel, qui fit preuve dès son plus jeune âge vraiment de caractère et de refus d'être assigné à une condition inférieure.
Ouais, en fait, elle est née donc en se posant la question dès le début de pourquoi être une fille, c'était aussi différent d'être un garçon. Et elle va décrire bien plus tard le milieu dans lequel elle a vécu avec ses différences justement hommes-femmes, en disant « mon milieu était un milieu inculte, pauvre ». Et comme souvent, dans ces milieux incultes et pauvres, on se rabat sur la religion qui toujours asservit les femmes. La tradition, tout cela, faisait que les filles étaient là pour servir les garçons. Et comme nous étions 2 garçons et 2 filles à la maison, eh bien ma sœur et moi, nous étions censés nous occuper de notre père, ce que nous faisions avec bonheur, parce que nous l'aimions beaucoup. Il était drôle, il était enjoué et il était amoureux de ses filles. Et nous occuper de nos frères, ce que nous aimions beaucoup moins. D'autant que très vite, les filles ont pris un avantage à l'école, au lycée, où elles ont été les premières. Mon frère aîné était un vrai cancre, alors on ne voyait pas très bien la raison d'être au service, nous les filles, qui allions plutôt bien sur nos chemins, d'être au service de ces garçons.
En effet, dès son plus jeune âge, comme tu l'as dit, Déborah, elle se révolte, elle refuse en fait de servir les hommes à table, y compris ses frères, et aussi de s'occuper des tâches ménagères, dont ses frères étaient bien évidemment dispensés. À l'âge de 13 ans, elle va carrément entamer une grève de la faim afin de ne plus avoir à faire le lit de son frère, ce qui aujourd'hui nous paraît fou. Au bout de 3 jours, ses parents vont céder et elle va écrire dans son journal intime de l'époque « Aujourd'hui, j'ai gagné mon premier petit bout de liberté ». Elle a auparavant également entamé une grève de la faim à 10 ans pour appuyer son droit à la lecture et obtient de bons résultats scolaires là où ses frères échouent, comme l'a dit Déborah.
Elle va même obtenir une bourse scolaire. Elle va passer elle-même les concours, elle va faire des démarches par elle-même pour passer des concours et pour rentrer dans une école privée.
Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait vraiment un fort caractère. Elle assumait vraiment ses choix, elle ne laissait pas ses parents dire « tu fais ça », même par rapport à la religion. C'était quand même assez important à l'époque. Et dès son plus jeune âge,
pas faire, ouais.
Elle avait même refusé d'embrasser la mezouza avant d'aller en classe.
Aussi, dès le plus jeune âge, elle est passionnée de lecture et va se mettre à lire des lectures dites interdites, lui montrant une autre voie que celle de mère au foyer. Elle va aussi refuser un mariage forcé à l'âge de 15 ans et elle va vivre une scène horrible qui va se passer devant ses yeux, c'est la mort de son petit frère brûlé vif. Sa mère la pense fautive et du coup va l'accuser de ce drame. Et cette scène restera gravée dans sa mémoire et nourrira en elle le désir de justice, justement parce qu'elle va devenir avocate plus tard, comme l'a dit Mélissa. Mais ce n'est pas que pour cela qu'elle a envie de devenir avocate. Elle l'explique. Être avocate, pour moi, c'était le moyen de tenter de changer ce que je n'aimais pas dans ce monde. L'injustice, le rapport de force, le mépris des humbles et le mépris des femmes.
D'ailleurs, elle aurait peut-être été aussi influencée politiquement par son oncle qui était engagé dans le parti communiste tunisien.
Dès le début de sa carrière d'avocate, elle tient à plaider du côté des opprimés. Ça voulait dire évidemment les femmes, les pauvres, les colonisés. Jedel va faire du bruit quand elle va médiatiser les atrocités qui se passent en Algérie. Elle découvre les tortures, les viols collectifs, les disparitions et les exécutions sommaires. Le cas de Jamila Boupacha se positionne entre la lutte anticoloniale et le combat féministe. Mais d'abord, c'est quoi le contexte en Algérie ? En Algérie française, c'est l'armée qui décidait s'occuper de procès inéquitables contre ceux qu'on qualifiait à l'époque de terroristes. Gisèle Halimi a même été emprisonnée pour son action. Comment s'est déroulé le procès ? On avait très peur que Jamila soit exécutée en prison. Il se passait des choses épouvantables dans la prison algérienne où elle se trouvait. Mais elle a pu arriver en France grâce à l'aide de Simol Veil, qui s'occupait de l'administration pénitentiaire à l'époque. Malgré tous les efforts de Gisèle Halimi, Jamila sera condamnée à mort. Le moment de bascule, c'est quand elle rencontre Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir est complètement ravagée. Ensemble, elle publie pour Jamila Boupacha dans la rubrique L'Opinion Libre, Le Monde du 3 juin 1960, un article fracassant révélant le trio formé par Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi et Jamila Boupacha. Ce trio symbolise le souvenir d'un réseau de résistance depuis la fin de la guerre d'Algérie. Jamila a été arrêtée en 1960 pour tentative de terrorisme. La bombe qu'elle a déposée a été désamorcée par les démineurs de l'armée et elle n'a fait ni dégâts ni victimes. Elle a été emprisonnée clandestinement, torturée et violée. Et voici un extrait de l'article de Simone de Beauvoir. On lui fixa des électrodes au bout des seins avec du papier collant scotch, puis on les appliqua aux jambes, à l'aine, au sexe, sur le visage. Des coups de poing et des brûlures de cigarettes alternaient avec la torture électrique. Ensuite, on suspendit Jamila par un bâton au-dessus d'une baignoire et on l'immergea à plusieurs reprises. Elle a été défendue corps et âme par Gisèle Halimi. Elle a donné 8 ans de sa vie à la cause de l'indépendance algérienne. Elle sera la cible de menaces de mort ainsi que sa famille. Est-ce que la France, c'est la torture ? C'est la question qu'elle pose lors d'un interview. Gisèle Halimi laisse cette question en suspens. Et elle dit « Très tôt, j'ai eu le sentiment d'un monde coupé en deux, avec d'un côté ceux qui oppriment et ceux qui étaient opprimés.
» Okay. T'as raison, Mélissa. Elle va se battre pour la fin des actes de torture durant la guerre d'Algérie avec justement ce procès de Jamila Boupacha. Mmh. Alors moi, je vais vous parler plutôt de l'affaire de Bobigny. Donc déjà, pour contextualiser un peu historiquement, Gisèle Halimi, elle fait partie de la deuxième vague de féminisme qui est caractérisée dans les années 70, qui se focalise du coup sur le droit des femmes à disposer de leur corps. Et elle va créer en juillet 1971 l'association Choisir la cause des femmes, qui se donne pour objectif de représenter gratuitement les femmes ayant eu recours à un avortement clandestin et d'obtenir la révision de la loi contre l'avortement.
D'ailleurs, du coup, en 1974, elle va être invitée dans l'émission Aujourd'hui, Madame, sur la deuxième chaîne de l'ERTF, où elle va y défendre l'avortement libre et la lutte aussi contre le racisme. Et va aussi répondre en même temps aux critiques sur son engagement pour l'indépendance algérienne. Donc, elle n'avait vraiment pas froid aux yeux.
Et c'est dans ce contexte qu'elle va défendre Marie-Claire Chevalier au procès de Bobigny, une jeune fille de 16 ans accusée d'avoir avorté illégalement alors qu'elle s'était faite violer. Racontons d'abord son histoire. Marie-Claire Chevalier, c'est une jeune adolescente de 16 ans qui vit seule avec sa mère, Michèle Chevalier, qui est une employée à la RATP. Son père a quitté le foyer depuis longtemps. Marie-Claire fait alors la connaissance d'un jeune homme de 18 ans sortant de maison de correction et qui va la forcer à avoir des relations non consenties. N'ayons pas peur d'utiliser le mot « viol » pour décrire ses actes. En novembre 1971, Marie-Claire découvre qu'elle est enceinte et se fait donc avorter avec la complicité de sa mère, de Lucette Dubouchex et de René Sausset, deux collègues de la RATP à qui Michèle Chevalier a demandé conseil, et d'une avorteuse, Micheline Bambuc. Donc elles étaient 5 femmes. Cependant, après l'opération, Marie-Claire va être transportée d'urgence à l'hôpital à cause de l'hémorragie provoquée par l'avortement. Et l'homme qui avait violé Marie-Claire va se faire arrêter pour vente de stupéfiants et va par la même occasion dénoncer Marie-Claire qui s'était confiée à lui par rapport à cette opération. Donc c'est Marie-Claire Chevalier, sa mère, Michèle Chevalier, les deux collègues à qui elle avait demandé de l'aide ainsi que la femme ayant procédé à l'IVG vont être jugées pour complicité d'avortement. Le 11 octobre, Marie-Claire est jugée. Puisqu'elle est mineure, son procès se fait au tribunal pour enfants de Bobigny en huis clos, séparément des 4 autres femmes. Malgré cela, Gisèle Halimi réussit à mobiliser nombreuses femmes devant le tribunal avec des cris « Libérez Marie-Claire ». 250 femmes ont répondu à l'appel. Par cette affaire, Gisèle essaye de changer les mœurs de la société en s'attaquant directement à l'article 317 du Code pénal de 1810 qui condamne l'avortement et l'article de la loi du 31 juillet 1920 qui réprime la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. Pendant le procès, Gisèle Halimi va dénoncer les inégalités sociales liées à la répression de l'avortement. En effet, alors que des femmes de milieux aisés pouvaient avorter dans de bonnes conditions au moins avec du matériel, sans crainte d'être poursuivie en justice, alors que celle des milieux modestes, elle s'exposait à des dangers sanitaires à cause de cet avortement, qui était réalisé dans de mauvaises conditions, et en plus, elles avaient le risque de poursuites judiciaires derrière. C'est en cette fin de matinée du 11 octobre que Marie-Claire sera relâchée parce qu'on considérait qu'elle n'avait pas délibérément ni volontairement choisi d'accomplir l'acte qui lui était reproché, parce qu'elle avait souffert de, entre guillemets, contraintes d'ordre moral, social, familial auxquelles elle n'avait pas pu résister, selon le jugement rapporté par Gisèle Halimi elle-même. C'est le 8 novembre ensuite que se déroule le procès des quatre autres femmes au tribunal correctionnel de Bobigny. C'est ce procès qui va être le plus déterminant dans l'évolution de la législation liée à l'avortement. Gisèle Halimi va faire venir des hommes politiques, des médecins ou encore des philosophes à comparaître devant la barre pour montrer l'inéquité de la loi contre l'avortement. Lorsqu'elle avait expliqué son plan au MLF, Mouvement de Libération des Femmes, elle n'était pas d'accord de voir apparaître des hommes dans ce procès car il devait rester une affaire de femmes. De plus, MLF lui indiquait que l'avortement transcende cette question d'appartenance sociale car il est le problème de toute femme, qu'importe leur milieu. Gisèle Halimi a tout de même fait cette stratégie malgré les reproches de MLF. Et du coup, lors de cette matinée du 8 novembre, les quatre femmes revendiquent leur acte en toute conscience de cause. Beaucoup de personnes sont présentes importantes lors de ce procès, comme Simone de Beauvoir, le médecin Paul Millièse, l'actrice François Fabian ou encore le politique Michel Rocard. Le jugement de ce second procès de Bobigny est mis en délibéré au 22 novembre suivant. Micheline Bambuc, celle ayant procédé à l'IVG de Marie-Claire, est condamnée à un an de prison. Lucette Dubouchex et René Saussé sont relaxés. Et Michel Chevalier, la mère de Marie-Claire, est condamnée au paiement de 500 francs d'amende avec sursis. Finalement, ces procès n'auront pas vraiment eu gain de cause. Cependant, la loi Veil apparaît tout de même en 1975 et elle est le résultat d'un long processus faisant du procès de Bobigny un important jalon.
Dans son roman « La cause des femmes », sorti aux éditions Grasset et du coup en 1974, l'avocate passionnée se livre sur la libéralisation de l'avortement et la criminalisation du viol. Elle parle du combat du viol des femmes de tout temps, sous tous les lieux, à l'occasion de toutes les croisades, que ce soit pour instaurer la barbarie ou pour défendre la liberté, les hommes ont violé. Femmes butins, femmes niées, femmes saccagées. Gisèle parle de la masculinisation de la langue française, de la crise de l'identité masculine, des écritures dans les textes saints, notamment dans la Bible, où la femme est soit dépeinte vierge ou mère. Elle cite « La Genèse avait d'ailleurs programmé avec concision notre destin. Dieu dit à Ève, je vais multiplier la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur. Ton élan, on sera vers ton mari, mais lui, il te dominera. » Page 13. Un des passages qui a ouvert ma réflexion, c'est quand elle parle de la transmission du nom du père aux enfants communs dans le cadre du mariage. Un principe qui laisse la place à la primauté du droit patriarcal. Comment déconstruire ce rapport normatif entre sexe, genre et reproduction? Jusqu'à aujourd'hui, la femme est toujours associée à l'autre, la relative, la complémentaire.
Et oui, en effet, elle a publié une quinzaine de livres entre 1988 et 2011, dont le dernier qui se nomme « Histoire d'une passion ». Donc elle l'a publié à l'âge de 84 ans. On peut vite résumer son parcours politique, même si, comme vous l'avez pu le voir, c'est une femme de gauche. En 1965, Gisèle Halimi va soutenir François Mitterrand à la présidentielle et souhaite unir le socialisme au féminisme, parce qu'elle va du coup participer au mouvement démocratique féminin, fondé par Marie-Thérèse Eyquem, et affiliée à la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Et donc, durant les élections législatives de 1967, elle va faire partie des 7 candidates de la FGDS, présentées sur des circonscriptions perdues. Et comme l'a dit Déborah, elle va lancer le mouvement Choisir, donc dans l'élaboration d'un programme commun des femmes, et fait présenter 100 femmes aux élections législatives de 1978, malheureusement sans succès. Elle est une grande amie de François Mitterrand, dont elle va soutenir la candidature victorieuse à l'élection présidentielle de 1981. Et elle va chercher à se porter candidate avec le soutien du Parti Socialiste lors des élections législatives de 1981. Elle va siéger à l'Assemblée nationale jusqu'en septembre 1984, donc elle va être députée, comme apparentée au groupe socialiste.
Elle va s'inscrire plus largement dans le domaine politique en 1985-86 avec son engagement pour l'UNESCO. Et elle sera aussi conseillère spéciale auprès de la délégation française à l'Assemblée générale de l'ONU.
Elle va, par exemple, participer au projet de loi visant à la dépénalisation des relations homosexuelles avec les mineurs de plus de 15 ans. Mmh. L'une des promesses de François Mitterrand lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 81.
Ouais. Elle a reçu plusieurs récompenses. Elle a été nommée grand officier de l'ordre de la République tunisienne en 92, chevalier en 97, puis officier de la Légion d'honneur en 2006 et commandeur de l'ordre national du mérite en 2010. Et Emmanuel Macron a choisi le 8 mars, lors de la Journée internationale des droits des femmes de l'année dernière, pour rendre un hommage national à l'avocate Gisèle Halimi.
Oui, et le processus d'entrée de l'avocate au Panthéon n'est pas mort et continue de vivre selon l'Élysée. Du coup, c'est toujours en suspens. On ne sait toujours pas si un jour elle entrera dans le Panthéon.
Et moi, je trouve que c'est une femme vraiment hyper inspirante. Enfin, on va peut-être la filier à Simone de Beauvoir parce qu'elles ont quand même collaboré pas mal ensemble pour écrire des livres, etc. Puis elles ont quand même défendu à peu près les mêmes sujets. Mais c'est dommage qu'on en parle moins d'elle, parce que Simone de Beauvoir, comme on le sait, la majorité des personnes le savent, elle est assez problématique par ses actions.
Et elle porte aussi des combats qui l'a touchée personnellement, comme l'avortement pour le procès de Bobigny. Elle a vécu trois avortements. Elle a eu trois enfants, mais elle a aussi avorté trois fois. Et elle était d'origine tunisienne. Et du coup, ça l'a touchée particulièrement, la cause des Algériens, le racisme qu'on peut vivre en France quand on vient du Maghreb.
Mais aussi, comme on l'a dit, du coup, elle était engagée contre la peine de mort et pour les droits des homosexuels.
Oui,
donc en fait, elle a eu divers combats qui, aujourd'hui, sont toujours importants en France, en tout cas.
Elle était vraiment là sur tous les fronts. Et quand on voit son passé, elle s'est vraiment battue jusqu'au bout et elle aurait pu lâcher prise et se laisser, parce que c'était pas facile quand même d'assumer ses convictions aussi jeunes et avec des parents qui t'aidaient pas forcément à te tirer vers le haut. Donc c'est dommage qu'on ne parle pas assez d'elle.
Ouais, exactement.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau podcast. À très vite.
À bientôt.
Bientôt.